Je vais juste faire des commentaires un peu en français, parce que je pense qu'il y a vraiment une continuité avec ce qui vient d'être dit aussi avec Mohamed Bajrafil, qui justement parle de l'engagement with each other, engagement with each other, comment on peut s'engager avec l'autre communauté. Et justement, vous avez introduit la notion de intercommunauté au lieu de interreligieux. Et je pense que ce que vous avez montré d'une manière très claire, c'est que les Juifs et les musulmans vivant en Europe ont tendance à ne pas se reconnaître comme co-citoyens d'Europe, mais ont tendance à s'exporter, à exporter les questions qui les relatent sur le conflit israélo-palestinien. Donc, comment on peut changer justement l'ordre des choses? L'exemple que vous avez raconté, c'était très parlant, parce que quand les gens ont commencé à débattre les questions qui concernent leur vie au quotidien, à Londres, par exemple, autour des pratiques de la mort, comme la nécessité d'enterrer aussi vite que possible, ou alors, j'avais aussi donné l'exemple, on peut donner ritual slaughtering, l'abattement rituel. Donc il y a beaucoup de pratiques qui, de l'ordre religieux, qui nécessitent une manière de débattre ces questions entre les communautés, et puis ensuite aussi avec les autorités municipales, avec des gouvernements, etc. Donc là, on est vraiment en train d'avancer pour dire que ce n'est pas juste un dialogue, etc., mais comment, à partir autour des questions qui concernent les individus, les croyants, mais aussi les individus de ces communautés, il y a des passerelles à créer au lieu de monter un peu vers la politique. Et à partir de ça, on peut changer même l'attitude vis-à-vis de la politique. Je trouve que c'est un renversement de la perspective tout à fait importante. Et je vous remercie. Et j'aimerais bien maintenant donner la parole à Samia Hatroubi. Elle est là, voilà. Elle est historienne. Elle est toujours historienne parce que c'est écrit. Elle a été son prof. Elle a fait aussi des études donc de master sur justement interfaith dialogue. Ça c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle génération qui commence à faire des études, des recherches sur ce thème-là. Et surtout qu'elle est elle est directeur d'une organisation qui veut promouvoir la coopération et dialogue entre les Juifs et les musulmans, et qui est le coexiste, les deux, n'est-ce pas,
coexister,
de cette organisation qu'on trouve tout à fait intéressant, que nous essayons aussi de suivre dans nos séminaires avec nos étudiants. Merci beaucoup.
Merci. Merci professeur Goulet pour cette introduction. Comme le rabbin, j'ai plusieurs chapeaux, mais moi, on ne les voit pas. Alors, je suis à la fois directrice européenne d'une fondation américaine qui s'appelle The Foundation for Ethnic Understanding et la directrice de développement pour l'association française et européenne Coexister. Alors, après cette toute petite brève introduction, j'aimerais d'abord remercier Samuel Everett de cette invitation et surtout de permettre la tenue de ce débat, de ce lieu assez unique où on peut se pencher sur des sujets qui sont peu étudiés et peu mis en exergue. I would just like to say a word in English. I'm sorry for my English speaker friends. I'm sorry, Julie. I have very few opportunities to speak in French, so I will do it, and I'm very happy to do it in Paris. But you just have my sum up in, I think, some papers, and I will definitely write it down one day or in another. Just a word in English before coming back to French, switching to French. I would like to say to Rabbi, instead of focusing, I mean, if we do focus too much on the elephant in the room, we do forget about all the other animals in the zoo, and I like to say it. Revenons au français. Alors, c'est assez cocasse pour moi d'être à ma droite avec un rabbin et à ma gauche avec un imam, parce que c'est un peu mon quotidien. Donc, je me sens un peu comme à la maison. C'est très agréable. J'aimerais attirer votre attention. L'intitulé de ma contribution, c'est la suivante. Action et acteurs du champ de l'interreligieux post-attentat, rupture et continuité. Alors, rupture, pourrait penser que c'est une de mes déformations de formation d'historienne. Hein. Les historiens adorent les ruptures. Continuité aussi, peut-être, parce que j'ai fréquenté beaucoup de sociologues. Mais si j'ai choisi ce terme de rupture, c'est parce qu'il fait sens. Et ce sens-là, on le retrouve à travers l'actualité brûlante qui a été la nôtre en 2015, qui sont les attentats. Et j'emprunte les termes, mon introduction à professeur Gollet, qui dans son avant-propos des musulmans au quotidien, dit la chose suivante, et que je me permets de reprendre, « Tout attentat opère une rupture. Il y a un avant et un après. Les attentats qui ont ensanglanté la France en 2015 ont marqué une rupture, à la fois dans le champ médiatique, à la fois en faisant dérailler le contrat social français, et provoquant, et a fortiori dans les communautés musulmanes françaises, des secousses sans précédent. Je pense que sur ça, on peut tous se mettre d'accord, il y a une forme de consensus. Les relations entre, d'un côté, leaders religieux et communautaires musulmans et juifs et chrétiens, et de l'autre côté, les acteurs et militants associatifs impliqués dans le dialogue et la coopération ne font pas exception et ont aussi été ébranlés. Et c'est autour de cette rupture et continuité des modalités d'action du dialogue interreligieux, intercommunautaire, interidentitaire, j'essaierai de définir ces trois termes, que j'aimerais attirer votre attention et sur lequel je vais essayer de mettre en exergue mon propos. Alors peut-être, j'ai adopté un plan qui reprend ce terme de rupture, à la fois en mettant en exergue, dans un premier temps, les différentes modalités d'action du dialogue interreligieux, qui n'est absolument pas nouveau, et dans un autre temps, en montrant ces nouveaux bruissements, cette émergence des nouvelles modalités, de nouveaux acteurs, et de voir en quoi les paradigmes d'action sont soit similaires, soit différents. Et c'est sur ça que j'aimerais... parler, sur lequel j'aimerais parler pendant ces quelques minutes qui me sont en partie. Peut-être avant d'entamer notre sujet et avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important et judicieux de se questionner sur les attentes que l'on place, qu'une société place dans le dialogue interreligieux. Au-delà du débat sur la laïcité, au-delà de la dichotomie qui est souvent factice entre la France et la Grande-Bretagne, je crois qu'il est important de souligner la place et la vision que nous, Français, avons sur la religion. Dans cette psyché collective, dans ce que Farid El-Asri, qui est sociologue à Bruxelles, parle de bibliothèque des images que nous traînons autour de cette religion, il y a deux points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Le premier, c'est cette idée qu'il n'existe pas de communauté en France. Hein. Le sujet nous amène à nous pencher sur les relations intercommunautaires. La France ne reconnaît pas de communauté, elle reconnaît des individus, ça c'est une première chose. Et elle ne reconnaît absolument pas de communauté religieuse. J'en veux pour preuve le fait que la laïcité, il y a cette idée extrêmement répandue, la laïcité selon laquelle la religion fait partie de l'intime, qui est une idée à fortiori à contraire de la loi de 1905, mais on y reviendra dessus. Et donc les religions ne peuvent pas intervenir dans la société et de fait ne peuvent pas avoir une action sociale, ne serait-ce que positive. La deuxième idée, la deuxième intuition, je la tire du livre de Guy Beau, Tourment de la guerre, qui est journaliste et essayiste, et qui dit dans son livre paru en 2015, « La sauvagerie des guerres de religion des XVIe siècle en France a imprégné de façon tellement durable notre mémoire collective que, 4 siècles plus tard, nous associons assez spontanément la guerre à la religion. » Et j'ajouterais que ceci est d'autant plus vrai à cette aune de ce XXIe siècle que les exactions de l'État dit islamique viennent colorer et ajouter à cette idée-là, faisant de l'islam le sceau de la violence. Pourtant, on l'a vu et on l'a dit, il y a des exemples de dialogues interreligieux qui ont toujours existé dans notre pays. Quelques exemples très précis et probants pour illustrer mes propos. Le premier, c'est le dialogue judéo-chrétien, qui a pris un essor important après le Concile Vatican II avec Nostra Aestate, et on a vu un très grand nombre de groupes de discussions théologiques autour du dialogue judéo-chrétien. Ce dialogue judéo-chrétien s'est venu ajouter à ce dialogue judéo-chrétien le dialogue islamo-chrétien, qui est aussi très ancien, que vous retrouvez avec des figures charismatiques extrêmement importantes du champ chrétien et français, champ chrétien et musulman, comme le père Christian Delorme à Lyon, qui a aussi participé et concouru à la marche des beurs, ça c'est intéressant de voir ça. On le voit aussi avec la présence d'individus comme Kamel Kaptan, le grand recteur de la mosquée de Lyon, ou encore comme une personne comme Hazdin Gassi, qui est le recteur de la mosquée Hoffman à Villeurbanne, qui a rencontré le pape à deux reprises. Donc on voit qu'on a une longue tradition. Donc ce GAIC, ce groupe d'amitié islamo-chrétienne, est national mais aussi régional. Il s'est disséminé à travers le pays. Donc on a effectivement ici des discussions qui sont souvent à huis clos sur d'abord la théologie et qui, au fur et à mesure du temps, ont amené des sujets d'actualité. Donc la dernière grande réunion du GAIC à huis clos avait pour thème l'État islamique, avait pour thème la violence, et permet de dissiper, alors là il est question d'hommes et de femmes, de leaders religieux essentiellement. Il y a quelques femmes, j'en fais partie, on doit être trois je crois. Mais on voit qu'ici, le dialogue islamo-chrétien existe. Il a été le fait d'élites, et on a beaucoup parlé de cette verticalité, j'aimerais attirer votre attention aussi sur ça, c'est que le dialogue islamo-chrétien, tout comme le dialogue judéo-chrétien, a souvent été le fait d'hommes et de femmes de foi, de religieux. Il a très peu touché en fait les communautés. Ça c'est un premier point. Dans d'autres formes d'interreligieux, on voit que du fait de la difficulté d'aborder le fait religieux en France, le dialogue interreligieux a souvent pris les formes de dialogue interculturel. C'est un terme très français. Vous avez un exemple assez concret, assez probant aussi, d'une association que peut-être certains connaissent qui s'appelle Parler en paix. En hébreu, Ledaber Beshalom, et en arabe, c'est Takalam Besalam. Et Parler en paix existe depuis 11 ans, permet à des individus français d'apprendre l'hébreu et l'arabe, et on voit qu'ici se joue une forme de dialogue judéo-musulman sans que ce soit vraiment dit. Les personnes qui vont dans cette association rejettent l'idée de dialogue judéo-musulman, mais en fait, ce qui se joue, c'est une rencontre entre individus. Alors, c'est intéressant de voir la sociologie de l'association Parler en paix, parce qu'on a des personnes qui sont des personnes juives relativement âgées qui sont nées en Tunisie, en Algérie et au Maroc, et on voit en face des jeunes musulmans, une deuxième ou une troisième génération, malgré ce que peut penser Kepel, la troisième génération n'est pas qu'identitaire, et elle a aussi une propension à aller vers le dialogue interreligieux. C'est dans son dernier bouquin, je fais une référence au dernier bouquin de Gilles Kepel. Et donc on voit ici que se rejoue, qu'on a un horizon d'attente différent du côté des musulmans et des juifs, et que se rejoue aussi une espèce de retissage, de reconnexion d'ordre mémoriel. Les juifs revenant, côtoyant en tout cas ces jeunes musulmans, recréant en quelque sorte cette convivencia qu'ils ont pu vivre dans leur pays, et ces jeunes musulmans allant vers un certain nombre de personnes juives avec qui ils n'ont jamais vécu. Donc bon, on voit ici une espèce de reconnexion mémorielle qu'a assez bien montré un cinéaste qui s'appelle Kamel Ashkar dans son film qui s'appelle Les Échos du Melah et dont une deuxième version va naître. Le dialogue interreligieux, on en a parlé, a aussi été utilisé par les pouvoirs publics. On a vu qu'il y avait des lieux, des conseils de culte dans certaines municipalités, et souvent on a fait une utilisation, en tout cas les pouvoirs publics ont fait une utilisation du dialogue interreligieux. Un exemple assez probant et un point de vigilance sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est un cas précis. Donc le président du CRIF, je ne vais pas citer ses propos pour pas qu'on focalise notre attention dessus, mais le président du CRIF, dernièrement, a été dans une radio publique, a prononcé un certain nombre de paroles qui ont provoqué des remous au sein de la communauté musulmane. Et Ici, que fait l'autorité publique, le pouvoir public, le président de la République? Convoque, hein, c'était même plus une invitation, je pense qu'il les convoque, Roger Kuckermann et Dalil Boubacar, et il y a cette image et cette photo assez qui était sur les journaux, où on voit Kuckermann et Boubacar se saluer devant le perron de l'Élysée, reprenant un petit peu dans notre inconscient collectif ce serrage des mains entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. On voit qu'ici, on n'est pas dans l'ordre du dialogue, hein. On n'est pas dans du dialogue interreligieux, on est dans ce qu'on appelle une rencontre, où on utilise de façon symbolique les communautés pour acheter une paix sociale factice. C'est-à-dire qu'au sein des communautés, la tension était toujours aussi vive. Et je crois que ce sont en tout cas un certain nombre d'apories sur ce qu'a été le dialogue interreligieux. Aporie parce qu'il a été vertical, aporie parce qu'il a été aussi utilisé par les pouvoirs publics et qu'il a souvent été fait, fait de façon symbolique. Et là où 2015 et les deux vagues d'attentats ont constitué une rupture, c'est qu'on a vu de nouvelles formes et de nouvelles modalités d'action. Alors ces modalités d'action se distinguent par un certain nombre de traits distinctifs que j'ai tenté de mettre en exergue. Le premier, c'est qu'on passe de la verticalité à l'horizontalité. Ça, c'est hyper important. Et puis, on passe de l'espèce de symbolisme à un foisonnement d'initiatives. Et enfin, on voit aussi une forme d'individualisation. On en a parlé. Donc, horizontalité, foisonnement et individualisation. Je vais vous prendre des exemples très concrets. L'imam Bajrafil a parlé dans les prémices des portes ouvertes. Les portes ouvertes organisées cette année, par exemple, par le CFCM et Anouar Kibibesh, mais qui ont été organisées aussi de façon spontanée par un certain nombre d'imams dans leur mosquée au lendemain des attentats de 2015. Cette initiative, elle ne vient pas de France. C'est assez intéressant de voir que les initiatives vont et viennent, mais elle vient d'Angleterre. Elle nous vient de Grande-Bretagne. Elle vient du Muslim British Council, du MBC, qui avait décidé après les attentats français, hein, c'est-à-dire que les attentats se sont pas passés sur leur pays, mais en France, après les attentats français, le MBC décide de façon organisée d'ouvrir un même dimanche, c'est deux week-ends de suite, les mosquées. Et Anouar Kuibesh, cette année, reprend cette initiative. Mais qu'est-ce qui se joue dans... Moi, je considère que c'est du dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui se joue dans ces lieux de culte? C'est d'abord une forme de spontanéité de l'initiative. Et ça, c'est extrêmement important. Là où le dialogue interreligieux avait souvent une espèce de carcan bureaucratique, on passait à la mairie, on se rencontrait avec le préfet, là, on a une spontanéité de l'initiative. Et ce qui se joue, c'est qu'on passe d'un dialogue interreligieux à un dialogue interconvictionnel. Et ce terme est très important, parce que si effectivement l'initiative part d'imams, et donc de communautés organisées, il ne s'adresse pas à des communautés organisées en face, mais il s'adresse à des individus qui peuvent être athées, croyants, agnostiques, juifs, chrétiens. Et donc on voit bien qu'ici une nouvelle forme de dialogue s'instaure entre des citoyens de façon horizontale. Et c'est là où, si le dialogue interreligieux peut quelque chose, c'est dissiper les peurs. Et effectivement, dans cet exemple extrêmement précis, on voit, et notamment grâce au succès de ces portes ouvertes, hein, on voit que des peurs ont pu se dissiper et que pour la première fois, certains individus français, citoyens français, ont pu se réapproprier des lieux de culte. Après ce deuxième point, je crois qu'il y a cette idée d'individualisation. On a parlé de dialogue intercommunautaire. L'individualisation permet, ou en tout cas rend impossible, une totalisation de l'autre. Et la totalisation de l'autre, c'est-à-dire d'arrêter de voir l'autre comme un bloc monolithique. Un exemple aussi extrêmement concret, donc il y en a un qui est finlandais, mais je vais m'attarder sur la France. En Finlande, il y a une initiative qui s'appelle le Human Library, qui est extrêmement intéressante, où on voit des individus aller dans des écoles ou dans des bibliothèques, et les jeunes empruntent un livre, et en fait, ce livre-là, c'est une personne. Et donc, pendant 15-20 minutes, ils ont une conversation d'individu à individu, et ça nous permet de déconstruire un certain nombre de préjugés. Une initiative qui se répand en France, c'est le kawa interconvictionnel. Bon, kawa, je vais vous le dire en arabe parce que j'ai la chance de parler cette langue, mais le kawa, c'est le café. Et donc, le kawa, c'est quoi? C'est de passer d'une plateforme numérique à une rencontre en réel. Les conditions pour que le kawa puisse se faire, c'est d'abord de trouver un lieu central et sûr pour que chacun puisse se sentir en sécurité. Pour recréer de la confiance, il faut que chacun ait le sentiment de se sentir en sécurité et de pouvoir se dire les choses. Et donc, il y a une animatrice ou un animateur qui dissémine à travers des groupes les personnes de convictions différentes et s'entame une discussion autour de ce qu'on appelle un nuage de conversation. Et on ne rencontre pas le président de la communauté juive, on ne rencontre pas le juif, on rencontre un individu, une personne avec une conviction, avec un horizon différent, avec des histoires différentes. Et on voit des fois que dans un même groupe, il peut y avoir deux chrétiens ou deux musulmans, mais qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réponses. Et c'est cette individualisation aussi du dialogue interreligieux qui est une nouvelle initiative et qui, je pense, permettra de créer de nouveaux espoirs. Dans ces nouvelles modalités, il y a un troisième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est qu'au lendemain des attentats en 2015, on a vu un certain nombre d'individus, de militants associatifs, se dire bon, il est temps de créer des lieux de communication. Et donc ils se sont retrouvés, ils ont dialogué, ils se sont dit mais c'est pas suffisant. Se parler n'est plus suffisant. Il faut agir ensemble. Et donc on passe là d'un dialogue à en faire ensemble. Et pour illustrer ce propos, je voudrais juste reprendre la devise de coexister pour qui je travaille, qui est la suivante. Diversité de conviction et unité dans l'action. Et donc, à travers cet exemple précis, les 30 groupes présents dans la France mettent au cœur de la société civile leurs différences, donc agissent pour organiser des maraudes, ils font des dons du sang, et qu'on voit bien que là, on sort du dialogue, on sort de la parole pour que l'action puisse faire parole au sein de la société. Et que on dit souvent que les actes parlent plus fort que les mots. Je crois qu'ici, c'est tout à fait le cas. Et il y a un exemple aussi très précis, elle est présente parmi nous, Julie Siddiqui, mais Julie Siddiqui, c'est ce qu'elle fait avec Mitzvah et Sadaka Day, c'est sortir du dialogue entre des communautés juives et musulmanes et mettre ensemble notre argent, nos forces, nos ressources pour agir pour le bien dans la société. Et enfin, en guise de conclusion, j'aimerais vous offrir un point de réflexion et partager avec vous ce point-là. Aujourd'hui, dans le champ antiraciste, on voit ce que moi j'appelle une polarisation et les groupes, les uns et les autres, s'excommuniant. Ce qui correspond aussi à une forme de concurrence victimaire, de concurrence mémorielle. Et là où c'est très intéressant, c'est que les nouveaux acteurs que j'ai un petit peu décrits, du champ interreligieux, viennent offrir une troisième voie. Cette troisième voie, on l'a vu, j'en parle dans mon petit résumé que je vous ai offert, on l'a vu à travers la tribune « Nous sommes unis » qui a été signée par des centaines de milliers de personnes et qui permettait à des personnes de conviction totalement différentes de se réunir autour d'un dénominateur commun. Et le succès de cette initiative, de ce collectif, montre bien que la polarisation et l'excommunication des groupes antiracistes ne concourent pas à une meilleure communication entre les communautés et qu'ici, il y a de nouvelles modalités, de nouveaux champs d'action possibles pour le dialogue interreligieux. Et je pense que je m'arrêterai là. Merci beaucoup.